Delphine, je viens de relire le récit de la conversion de ma branche au cartésianisme.
Grand texte.
Oui, grand texte, c'est vraiment très étonnant. Parce que, en fait, ma branche devient cartésien par la lecture de l'homme de Descartes, qui est l'ouvrage de Descartes le plus problématique à l'époque, oui. qui est plus censé donner la possibilité d'interprétation matérialiste de la pensée de Descartes. Et ma branche, l'effet sur ma branche, c'est totalement le contraire, hein, du moins. Dans une certaine mesure, quand même.
On va voir.
C'est vrai que l'homme que Malebranche lit est préfacé par Clercerier et que la préface de Clercerier est toute censée éviter cette interprétation matérialiste de Malebranche. Et d'ailleurs, c'est le but qu'avait aussi la préface de Schuyl, ou Schuyl, comme disent les Néerlandais, pour l'édition latine du De Homine. Donc, les cartésiens contemporains étaient très sensibles à la possibilité d'une interprétation matérialiste de Malebranche, de Descartes et de l'homme. Et ce qu'ils font, ils font des préfaces pour éviter ça. Et ça marche très bien dans les cas de ma branche, ou pas?
Eh bien, ça marche très bien en un sens. Alors, c'est vrai que l'homme paraît de manière posthume dans un contexte où le cartésianisme est attaqué, notamment au nom de sa définition de la matière, et que donc ces gens-là ont intérêt à protéger le texte de l'homme de certaines interprétations, de mauvaises interprétations qui tireraient Descartes dans le sens du matérialisme. Il y a quand même quelque chose qui est fascinant. Enfin, quand on regarde la recherche de la vérité de Malebranche, ce texte qu'il a travaillé toute sa vie pendant 50 ans, ça marche évidemment moins bien pour les autres textes, et les développements dont je vais parler, ils sont cantonnés à cet ouvrage-là qui a eu un succès phénoménal. Mais quand on regarde comment ça se passe dans la recherche de la vérité, il faut quand même bien voir que dans les livres 2, 5 notamment, Malebranche, il réussit cette espèce de tour de force pour un occasionnaliste, donc pour quelqu'un qui soutient la thèse de l'inefficacité des causes secondes et en particulier des corps, il réussit ce tour de force qui consiste à étendre le mécanisme de Descartes à des domaines auxquels Descartes aurait absolument refusé de l'étendre. Et les deux exemples les plus saillants, qui me viennent à l'esprit, c'est celui de la transmission du péché originel. Alors non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Si nous héritons tous du péché de nos premiers parents, c'est en raison de la conjonction, disons, d'un certain nombre de principes physiologiques et de liens que Dieu a établis en notre corps, entre notre cerveau, les nerfs, etc. Et puis entre les corps des différents hommes, qui expliquent finalement que ce péché se transmette par le corps. Et là, Malebranche utilise le mécanisme pour, apporter une réponse presque scientifique à une question que se posaient les théologiens du moment. Comment ça passe, cette chose-là passe d'Adam à nous? Et non seulement ça passe d'Adam à nous, mais ça s'amplifie dans la philosophie de Malebranche, ça fait une espèce de boule de neige. Et puis, le deuxième exemple qui est frappant, c'est l'extension de la théorie mécanique à la contagion des corps à distance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir, comme dans la physique cartésienne, de choc effectif des corps pour que se transmette quelque chose comme une contagion des affects. Et donc, c'est assez fascinant de voir que c'est chez l'auteur qui a sans doute le plus nié l'efficacité des corps que ce mécanisme se voit durci jusqu'à son extrémité. Et que donc, en effet, on peut, si on isole ces développements de livre 2 et 5 de la recherche de la vérité, par exemple, trouver là la matrice ou le ferment de quelque chose comme un matérialisme, étant entendu évidemment que ça n'était pas la thèse de Malebranche.
De Malebranche, voilà. Oui, c'est vrai.
Et ce qui est singulier de Malebranche par rapport à Descartes, c'est ce lien qu'il instaure tout le temps entre, disons, les domaines de la religion et les domaines de la philosophie, entendu comme philosophie mécanique, en effet. Et c'est très évident, comme tu le disais, dans les cas du péché, de l'explication malebranchienne du péché, c'est évident aussi dans les cas de l'explication malebranchienne des passions. Là, alors que Descartes s'était cantonné à dire « je traite des passions en physicien », Malebranche, lui, non, il ne traite pas seulement les passions qu'en physicien, il injecte des thématiques morales et religieuses, mais sa manière de parler des passions est également très étroitement liée à Descartes, même si, par rapport à Descartes, la pression des thématiques religieuses l'amène à dévaluer, par exemple, les passions et les corps. Donc, la conclusion du livre des passions, c'est comme, justement, les passions et les corps dérangent cet équilibre qui était l'équilibre adamique entre le corps et l'âme. Donc, il faut éviter les passions. Mais du coup, si on lit le livre 4, donc le livre que précède les passions, on voit que Marbranche parle d'inclinations naturelles et ces inclinations naturelles intègrent l'amour propre. Et l'amour propre n'a pas un sens seulement négatif comme chez les Augustiniens, mais il a un sens positif. C'est une inclination naturelle donnée par Dieu qui, en effet, récupère les passions parce que l'amour propre, c'est l'amour quand même. Et donc, c'est un élan que nous avons vers Dieu, c'est vrai, mais aussi vers notre prochain. Et d'ailleurs, tu disais de la contagion des passions, ça c'est très intéressant parce que la thématique sociale est totalement intégrée dans la philosophie des Marbranche de manière peut-être un peu plus systématique que chez Descartes.
Oui, de manière un peu plus systématique au sens où chez Descartes, effectivement, on voit ces problèmes-là développés plutôt dans des textes comme la correspondance avec Élisabeth ou bien dans la troisième partie du traité des passions de l'âme, notamment autour de la question de l'estime. Et là encore, ce qui me frappe, c'est de constater que finalement, les analyses que Malebranche consacre à l'homme déchu, à celui qu'il appelle l'homme du commun, hein, parce que comme il dit dans La recherche de la vérité, finalement, cet homme qui ne serait troublé par aucune passion, qui verrait la vérité en Dieu directement, etc., cet homme-là, malheureusement, n'est pas l'homme du commun et c'est de cet homme déchu que je vais devoir traiter. Et du coup, ça donne à ces analyses une potentielle autonomie qui les coupe de leur fondement théocentrique. Et sur le plan social, puisque tu prends cet exemple, c'est vrai qu'on a très peu songé, sans doute en raison de cette image un peu théologique collée à Malebranche et pour de fortes raisons, on a très peu songé à étudier de près la manière dont il mobilise cette question de l'estime dévoyée dans le champ social et la façon finalement dont ces analyses très réalistes pourraient être réinvesties dans une réflexion contemporaine sur la reconnaissance par exemple. Oui. Et c'est très intéressant de voir que dans cette ère qu'on a appelée l'ère post-métaphysique, l'ère de la mort du sujet, etc., et qu'on a justement opposé à une certaine image du cartésianisme, Descartes fondateur de la philosophie du sujet, etc., tout cela étant évidemment pour une part construit dans une histoire post-kantienne notamment. Ouais. C'est très intéressant de voir comment un auteur comme Malebranche qui propose, alors là pour le coup il y a une très grosse différence avec Descartes, ce que quelqu'un comme Guéroux appelait une déchéance du cogito, c'est-à-dire qu'il propose de l'âme une conception finalement remplie de matière, comment on peut, à partir d'un corpus comme celui-là, redonner une actualité à Malebranche dans cette ère post-métaphysique, avec cette conception très particulière justement de la subjectivité.
Puisque tu parles de la réception de Malebranche et de sa postérité, c'est très intéressant de voir ce que devient Malebranche au début du XVIIIe et au XVIIIe siècle aussi. En effet, c'était le cartésianisme, c'était Malebranche, c'était plus les textes de Descartes à l'époque. Tu le disais tout à l'heure, La recherche de la vérité a eu un succès fou. Et les autres écrits de Malebranche aussi, par exemple, l'échange avec Arnaud a eu aussi un grand succès. Et là, du coup, on peut voir ce paradoxe qui touche Malebranche, c'est que une philosophie qui est très pieuse dans ses intentions, certainement, est susceptible d'interprétations qui vont dans un sens totalement différent. Donc Arnaud lui reproche, par exemple, d'être spinozien. Et le fait par rapport à la manière dont Malebranche parle de la vision en Dieu, et notamment de la question de l'étendue intelligible, qui à un certain moment est intégrée dans la recherche de la vérité. Mais il y a autre chose aussi. La théodicée des Malebranche. La théodicée des Malebranche a la particularité de mettre en relief le fait que le mal, et que le mal physique notamment, est quelque chose de réel, n'est pas seulement une privation. Et après, bon, il essaie d'expliquer pourquoi on ne peut pas reprocher à Dieu ça, d'accord. Mais quand cette thématique passe dans les écrits de Bayle, le résultat est qu'on arrive à un échec total de la théodicée, parce que Bayle naturel, qu'est-ce qu'il fait? Il durcit la position de ma branche et il essaie de montrer que finalement c'est contradictoire. Donc on arrive toujours à un résultat totalement contradictoire. Et ça vaut pour la théodicée, ça vaut pour la théologie rationnelle en général.
Oui. Oui, on pourrait prendre de multiples exemples en fait au XVIIIe siècle d'une réception très paradoxale de Malebranche, voire d'une réception retournée contre ses intentions. Et c'est sans doute pas un hasard de ce point de vue-là si des gens institutionnellement très importants et dont on continue de sentir les effets encore aujourd'hui dans le système universitaire français, notamment des gens comme Victor Cousin, ont au XIXe siècle finalement choisi de se tourner vers celui qu'ils ont appelé le Platon du cartésianisme, en éditant prioritairement, non pas à la recherche de la vérité, mais des textes comme les entretiens sur la métaphysique et la religion, etc. Donc c'est pas un hasard si ces gens ont éprouvé le besoin de revenir, matériellement y compris, avec des éditions de textes, à un Malebranche qui avait été mis à mal par ces lumières. Et c'est intéressant de se demander aujourd'hui, finalement, quel est le bon Malebranche, quelle Malebranche on hérite.
Ben, c'est difficile toujours de trancher dans ces types de questions, c'est-à-dire que on a les deux, en effet. Oui. On a les intentions de l'auteur, mais on a aussi la réception de l'auteur.
Absolument.